Il est 22h et vous écoutez Europe 1. C'est donc l'heure du journal, Théo Manval.
Si le gouvernement pariait sur l'épuisement, il n'y a pas d'épuisement.
Pas d'épuisement, mais un tassement quand même. 450 000 manifestants partout en France aujourd'hui contre la réforme des retraites. C'est un peu moins que le 17 décembre. Mais cheminots, enseignants ou avocats continuent de réclamer le retrait du texte après plus d'un mois de contestation. Et les regards sont tournés maintenant vers la réunion prévue demain. Les syndicats vont-ils la boycotter alors qu'une porte pourrait s'ouvrir sur l'âge pivot, vous l'entendrez. À la une également dans ce journal, cette question. Le Boeing d'Ukraine Airlines a-t-il finalement été abattu par un missile iranien hier? Le Premier ministre canadien, pays de nombreuses victimes, l'affirme ce soir.
L'avion aurait été abattu par un missile surface-air iranien.
On suivra aussi la situation à Esparron, dans le Var, où un père est retranché, armé, avec sa petite fille depuis maintenant plus de 24 heures. Sur celle de Carlos Ghosn, au Liban, il n'a plus le droit de quitter le pays. Et puis sur cette belle remontada en volet qui permet aux Bleus de rêver encore à un ticket pour les Jeux Olympiques.
2-0, il fallait renverser les montagnes. On revient de loin, ça on le sait, on est très fiers de ce qu'on a fait, mais le plus dur reste à venir. Et...
Il reste une marche, on vous explique tout. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil, une conférence de financement sur les retraites. Pourquoi faire ? François Asselin, président de la CPME, nous répondra. Avant bien sûr la bourse et vos prévisions météo avec Anissa.
Europe 1.
Comme toujours, il y a l'écart des chiffres. 450 000 manifestants dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. 370 000 rien qu'à Paris, selon la CGT. Le cabinet de comptage indépendant Occurrence recense, lui, 44 000 personnes dans la capitale, soit un peu moins qu'au soir du 17 décembre, la dernière journée de mobilisation. Ils ont en tout cas été plusieurs centaines de milliers, encore une fois, à battre le pavé contre la réforme des retraites dans de nombreuses villes de France, avec Hélène Terzian, le soutien de nouvelles professions qu'on n'avait pas encore vu défiler. Vous avez suivi le cortège à Paris.
Effectivement, les manifestants sont venus marteler qu'après plus d'un mois de mobilisation, ils ne lâchent rien mieux, insiste Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière en tête de cortège. Le mouvement s'étend.
Si le gouvernement pariait sur l'épuisement, il n'y a pas d'épuisement d'une part et que deux. Là où on nous dit c'est essentiellement dans les secteurs des transports que la grève a été portée jusqu'à maintenant, eh bien moi j'avais lancé un appel à tous les corps de métier à se mobiliser aujourd'hui pour montrer qu'on sait qu'on est tous concernés.
Et c'est vrai que l'on a vu ici beaucoup de cheminots, d'agents de la RATP, mais d'autres secteurs émergent. Les avocats en robe, des employés du secteur culturel, ainsi que des salariés du privé. Théo, par exemple, craint lui aussi que cette réforme le pénalise.
C'est vraiment une réforme systémique qui va impacter tout le monde. Le fait de prendre en compte toute la carrière, non plus les 25 meilleures années, de mettre un âge pivot à 64 ans, bon bah c'est obligé un peu tous les salariés à travailler 2 années supplémentaires, bah ça impacte tout le monde.
Des manifestants unis pour le retrait de la réforme et face à un gouvernement sourd, déplore Éric Enseignant, il faut désormais monter d'un cran dans le rapport de force.
Je pense qu'il faut que ça débouche sur une grève générale parce qu'on va au bout de 36 jours de grève, à un moment donné il faut qu'en effet qu'on soit tous ensemble dans la rue, public, privé, et qu'on dise stop à toutes ces réformes et stop à ce gouvernement.
Preuve de leur détermination, ils donnent déjà rendez-vous samedi pour une nouvelle journée de manifestation.
Hélène Terzian, merci. Vous parliez des avocats, Hélène. Ils ont bloqué certains tribunaux aujourd'hui, jeté leur robe noire au sol en signe de dépit à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, mais aussi à Lille, où vous vous trouvez, Lionel Gougelot.
Ah oui, effectivement, et à l'issue de leur assemblée générale, il y a eu ce geste fort des avocats lillois qui ont symboliquement jeté leur robe sur le pavé de la salle des pas perdus du tribunal, tandis que dehors, leurs confrères interdisaient l'accès au palais de justice.
Tout est renvoyé, monsieur.
Ça va être reporté, monsieur.
Vous allez avoir une nouvelle date d'audience.
Ah, mais j'ai rendez-vous avec mon JAP, moi.
On fait ça aussi pour vous défendre, parce que sinon nos cabinets vont devoir fermer, et vous n'aurez plus accès à la justice.
Parce que la réforme du régime autonome des avocats, ça voudra dire des cotisations retraite multipliées par deux, financièrement insupportable pour un tiers des cabinets, selon Dimitri Bétremieux.
Et ces cabinets-là, ce ne sont pas les gros cabinets d'affaires ou d'assurance. Ce sont les cabinets qui viennent en aide aux gens qui en ont le plus besoin dans la vie de tous les jours. Les litiges de pension alimentaire, de garde d'enfants, les problèmes pénaux, même les petits commerçants.
Et donc à Lille, les robes noires comme Maître Servan Scodin ont reconduit leur mouvement de grève jusqu'à lundi.
On est prêts parce que de toute façon, c'est notre survie qui est en jeu. Vous savez, nous, depuis une semaine, là, on ne travaille pas, on ne passe pas de dossier, on n'encaisse pas d'honoraires et on continue à payer nos charges. Donc on souffre aussi, mais on est obligé de passer par là pour pouvoir être entendu et pour pouvoir continuer notre métier.
et pour cela, ils envisagent d'autres modalités d'action. Grève du zèle, demande de renvoi d'audience systématique pour paralyser l'institution judiciaire.
Lionel Gougelot, secteur à la mobilisation en baisse. En revanche, l'éducation nationale avec entre 16 et 19% de grévistes seulement aujourd'hui, selon le ministère. Alors, que va-t-il se passer à présent? On attend toujours la sortie de l'intersyndicale qui doit décider de la suite du mouvement. Mais vous savez qu'une réunion est prévue demain à Matignon avec les partenaires sociaux pour parler de la conférence sur le financement du futur système de retraite. Conférence que l'UNSA et la CFDT promettent de boycotter si le gouvernement maintient sa mesure d'un âge pivot. Eh bien, ce soir, dans le Figaro, Jean-Rémy Baudot, le ministre des Comptes publics semble entrouvrir une porte.
Une sortie de crise avec du temps, c'est le message que passe Gérald Darmanin dans les colonnes du Figaro ce soir. Le gouvernement veut pouvoir présenter toujours cette réforme des retraites le 24 janvier prochain en Conseil des ministres, mais semble désormais prêt à lâcher du lest sur les négociations de financement du futur système. En gros, le gouvernement dit banco à la conférence de financement proposée par la CFDT, à condition que l'examen du test se poursuive. Pas question donc de tout bloquer. Les éléments d'équilibre financier seraient ainsi intégrés à la copie finale. Reste à savoir... quel compromis, bien évidemment, sur ce fameux financement. Quand on lit Gérald Darmanin, on comprend que l'âge pivot pourrait être retiré du projet de loi pour être remplacé par une formule plus vague, le temps de trouver un accord avec les partenaires sociaux. Derrière cette interview, il y a évidemment la volonté de Matignon d'aborder le rendez-vous de demain avec les syndicats dans une optique de compromis. C'est ce que martèle le Premier ministre. Chacun doit faire un pas, répète-t-on au sommet de l'État. Mais tout le monde aura noté que c'est le ministre des Comptes publics qui prend la parole. Une manière pour le gouvernement de rappeler qu'il ne veut pas d'une réforme des retraites sans un financement sérieux.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. La grève se poursuit en tout cas demain dans les transports. Ce sera le 37e jour. Trafic toujours très perturbé dans le métro à Paris. Léger mieux à la SNCF. Prévoyez 80% des TGV, 60% des TER et des Transiliens, mais seulement un tiers des Intercités.
Europe 1, le journal de la nuit.
Théo Manval.
22h passées de 7 minutes sur Europe 1. Le Boeing d'Ukraine International Airlines, qui s'est écrasé hier après son décollage de Téhéran, a-t-il été abattu par un missile iranien? Le régime iranien nie en bloc, mais la catastrophe a eu lieu en pleine période de frappes aériennes entre Iran et États-Unis. Parmi les 176 morts, de nombreux Canadiens, et le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a pris la parole ce soir.
Nous avons des renseignements provenant de différentes sources, notamment de nos services de renseignement et ceux de nos alliés. Ces renseignements indiquent que l'avion aurait été abattu par un missile surface-air iranien. C'est possible que ça a été fait involontairement. Cette nouvelle vient confirmer la nécessité de mener une enquête approfondie dans cette affaire. Comme je l'ai dit hier, les Canadiens ont des questions et ils méritent des réponses. Le Canada travaille avec ses alliés pour faire en sorte qu'une enquête approfondie soit menée afin de déterminer les causes de cet écrasement tragique.
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, lors d'une allocution télévisée il y a quelques minutes, un peu plus tôt, le président américain Donald Trump avait lui aussi envisagé cette même hypothèse. L'Ukraine demande aux Nations Unies d'apporter leur soutien inconditionnel aux enquêteurs qui travaillent sur le terrain en Iran pour faire émerger la vérité. D'une assignation à l'autre, Carlos Ghosn a fui le Japon, mais il ne peut plus quitter le Liban. La justice libanaise le lui a interdit. Aujourd'hui, elle a confisqué son passeport français. Au lendemain de sa conférence de presse en Mondiovision, l'ancien patron de Renault Nissan était convoqué par le parquet à Beyrouth ce matin, Nicolas Fellman.
Oui, Carlos Ghosn entendu au palais de justice de Beyrouth dans deux affaires distinctes. La première, c'est ce mandat d'arrêt international lancé la semaine dernière par Interpol à la demande du Japon. Carlos Ghosn s'est expliqué sur les accusations de malversation financière et désormais, le Japon a 40 jours pour envoyer à Beyrouth le dossier d'accusation, toutes ces pièces accumulées depuis le début de l'enquête, censées étayer les accusations. Mais en attendant, comme le veut la procédure, l'ex-PDG a reçu l'interdiction, vous le disiez, de quitter le Liban et a donc dû remettre ici aux autorités son passeport français. Un peu plus tard dans la matinée, une seconde audience, elle portait elle sur une plainte déposée la semaine dernière par trois avocats libanais. Ils accusent Carlos Ghosn d'être entré en Israël, ce qu'interdit la loi ici. Je vous le rappelle, le Liban et Israël partagent une frontière commune et sont techniquement en état de guerre. Ce matin, devant les juges, Carlos Ghosn est revenu sur cette visite, celle non pas d'un citoyen libanais, mais d'un homme d'affaires français, alors encore à l'époque patron de Renault.
Merci beaucoup Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth. Cela faisait 3 ans que ses partisans l'attendaient. Ça y est, le Brexit est acté au 31 31 janvier, les députés britanniques ont voté le texte de mise en œuvre cet après-midi à une très large majorité à la Chambre des communes. Il doit encore être promulgué par la reine, ça doit être une formalité, et puis ratifié par le Parlement européen. Ce sera le 29 janvier prochain.
Europe 1. Théo Manval.
Retour en France à 22h10 sur Europe 1 et on prend la direction du Var où un homme de 40 ans est retranché depuis près de 30 heures maintenant avec sa fillette de 3 ans. Armé d'un fusil, les gendarmes sont déployés depuis hier après-midi. Ça se passe à Esparron-de-Palière, non loin d'Aix-en-Provence. Frédéric Michel, vous êtes sur place. Où en est-on ce soir, Frédéric ?
Écoutez Théo, c'est le statu quo. Hein. Il y a quelques minutes, une nouvelle équipe du GIGN est arrivée, sans doute la relève, car on entame une deuxième nuit de négociations. On ignore d'ailleurs si l'homme répond aux forces de l'ordre, malgré les heures qui passent. On ne ressent pas de tension particulière, ce qui veut dire sans doute que les forces de l'ordre prennent leur temps, s'installent dans la durée, attendant peut-être un coup de fatigue du forcené. La vie d'un enfant est en jeu, il n'est sans doute pas question d'intervenir en déclenchant un assaut. J'ai pu m'entretenir quelques instants avec la nièce de cet homme. Elle me disait qu'elle était inquiète, mais persuadée que tout se finirait bien. Dans le village, l'homme est décrit comme une personne fragile, mais qui s'occupe bien de sa fille et l'entoure d'amour. Ce serait indifférent avec son ex-compagne sur la garde de l'enfant, qui pourrait être à l'origine de son coup de folie. Je vous rappelle que tout a débuté à la suite d'une intervention de la gendarmerie au domicile de sa mère. Les pompiers appelés en renfort devaient l'emmener à l'hôpital, car son état psychologique semblait instable. Mais en se dirigeant vers le véhicule de secours, l'homme s'est enfui, s'est enfermé dans la maison avant de se saisir d'un fusil avec lequel il a menacé les militaires qui ont juste eu le temps d'extraire de la maison la mère et la sœur de l'individu, mais pas l'enfant qu'il retenait. Depuis, ce petit village de 350 habitants vit au ralenti. Les voisins les plus proches ont été évacués et ne peuvent plus rentrer chez eux.
Merci beaucoup Frédéric Michel à Esparron-de-Palière et on suit la situation avec vous ce soir. La famille de Rémi Fraisse va se pourvoir en cassation. La justice a confirmé aujourd'hui en appel le non-lieu pour le gendarme qui a tiré la grenade explosive à l'origine de la mort de ce jeune militant écologiste sur le barrage de Sivens, souvenez-vous, en 2014. Mais les proches du jeune homme ne comptent pas baisser les bras. Écoutez leur avocate, Maître Claire Dujardin.
C'est une décision sans surprise. Nous nous attendions à cette décision, bien évidemment, au vu de la procédure telle qu'elle a été menée, au vu des débats devant la chambre de l'instruction. Il n'en demeure pas moins que c'est une décision inique, puisqu'elle contrevient au principe de justice et qu'elle viole la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ce que nous avons défendu, c'est ce que nous continuerons à défendre. Et c'est pour ça que nous irons en cassation et que nous saisirons la Cour européenne des droits de l'homme. Nous considérons que l'usage de la grenade OFF1 dans le cadre de la manifestation à Sivens le 26 octobre 2014, eh bien, cet usage a été disproportionné, il n'était pas nécessaire et qu'on ne peut pas utiliser de telles armes sur des populations civiles.
L'avocate de la famille de Rémi Fraisse, elle répondait pour Europe 1 à Benjamin Peter. L'enquête sur l'incendie du site Lubrizol au mois de septembre s'élargit. Le parquet de Paris demande au juge d'instruction de se pencher sur une série de manquements de sécurité de la part de Lubrizol et aussi de son voisin Normandie Logistique. Absence de dispositifs de détection incendie sur les lieux de stockage situés en extérieur ou encore non-vérification des fiches de sécurité avant réception de certains produits. On termine avec les sports et cette incroyable remontée de l'équipe de France de volley, je vous le disais, qui s'offre encore le droit de rêver à un billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Les Bleus disputent actuellement le tournoi de qualification olympique. Il faut le gagner pour empocher ce ticket. Et en demi-finale, ce soir, les Bleus ont renversé la Slovénie 3-7 à 2 après avoir été mené 2-0. Yacine Louati, réceptionneur attaquant, tout à son bonheur.
Ouais, 2-0, il fallait renverser les montagnes. Voilà, on a dû faire les bons changements. Et c'est vraiment un travail d'équipe qui a poussé tout le long. On se sentait plus de 6 sur le terrain ce soir. Et ça a fait notre force. Ouais, comme ça, on ne s'arrêtera jamais. Cette énergie-là, il faut aborder le match de demain. On revient de loin, ça on le sait. On est fiers de ce qu'on a fait, on est très fiers de ce qu'on a fait. Mais le plus dur reste à venir. Et voilà, les yeux rivés dessus. On se donne le temps de profiter, mais avec les yeux déjà rivés sur le prochain objectif, dans 24 heures. Et ouais, c'est comme ça qu'il faut l'aborder, ça c'est sûr.
Et oui, parce que demain, les Bleus affronteront l'Allemagne ou la Bulgarie dans cette finale pour une place olympique. Yacine Louati, réceptionneur attaquant des Bleus de volley. Enfin, en football, on connaît le programme des demi-finales de la Coupe de la Ligue qui se joueront les 21 et 22 janvier prochains. Reims affrontera le Paris Saint-Germain et Lyon recevra Lille. 22h14 sur Europe 1, l'heure de passer à la météo avec vous Anissa, et c'est un temps encore agité pour demain.
Oui, effectivement Théo, avec cette perturbation qui cette nuit et demain va traverser l'est et le sud de la France, elle continue sa traversée du pays. Alors demain, cela concerne une partie de la France, des Pyrénées jusqu'à l'Alsace, où là les pluies sont très présentes dès le lever du jour et tout au long de la journée. À l'arrière de la perturbation sur la moitié ouest de la France, et bien sur les Hauts-de-France, la région parisienne, la Normandie, le centre-val de Loire, la Gironde, le Poitou-Charentes, la vallée de la Garonne, et bien là les nuages matinaux vont vite laisser place à de belles éclaircies. Vous aurez une journée plutôt calme et au sec. Sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, la neige tombe demain à partir de 1200 mètres, 800 mètres même sur les Préalpes. Sur les côtes normandes, bretonnes et en Vendée, eh bien là, le vent du nord souffle. Soyez très prudents, jusqu'à 100 km/h en rafale. Les températures, moins 2 à 9 degrés demain matin. Nous aurons 5 à Lille, 7 à Paris, 9 à Biarritz. Dans l'après-midi, eh bien c'est assez stationnaire. 7 à 16 degrés de Rodez à Bastia. 10 degrés pour la capitale.
En prévision signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Vous ne bougez pas, dans un instant on fait le point sur les places financières avec des sommets encore à Wall Street. Avant l'interview écho d'Emmanuel Duteil, François Asselin, président de la Confédération des PME, à la veille d'un nouveau rendez-vous à Matignon sur les retraites. A tout de suite. Et à 22h17, on fait un point sur la bourse avec vous, Didier Hamaud de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Théo.
Wall Street continue donc de battre des records historiques.
Wall Street poursuit sur sa lancée en battant effectivement de nouveaux records. Le marché américain ne croit pas au scénario de l'escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran. Résultat, les cours du pétrole retombent assez nettement avec un baril de pétrole Brent à $65 ce soir. On était à $70 en début de semaine. Et les indices boursiers battent des records historiques. Le Dow Jones plus 0,74%, 28 957 points. Le Nasdaq plus 0,81%, 9 203 points. Toutes les valeurs de technologie grimpent. IBM plus 1%, Microsoft plus 1,2%, Intel plus 0,5%. Il y a aussi Apple qui monte encore, toujours plus haut, pratiquement $310. Apple en hausse de 2,1%. Les ventes d'iPhone en Chine ont grimpé de 18% au mois de décembre. Ça donne une nouvelle avancée du groupe Apple qui vaut ce soir 1360 milliards de dollars. C'est le PIB de l'Espagne.
Oui, c'est pas rien. La bourse de Paris a progressé plus modestement, elle, de 0,2%.
Effectivement, oui, on est monté plus légèrement, de 0,19% exactement. 6042 points dans un marché qui continue de résister au-dessus des 6000 points, mais qui reste assez calme quand même. L'indice était monté en matinée à 6070 points, un nouveau sommet vieux de plus de 12 ans. Il est redescendu prudemment sur quelques prises de bénéfices. Donc, ce soir, on est à 6042 points, avec des rebonds quand même sur des valeurs qui avaient baissé en début de semaine, comme Air France KLM, plus 4%, ST Micro, plus 2,5%, des titres, de gros titres comme Essilor, Suez ou Veolia, en hausse d'1% ce soir.
L'exception du jour, Didier, le secteur pétrolier a reperdu du terrain.
Logiquement, dans le sillage des cours du baril, donc qui redescendent à $65, le Brent, on a Total qui repasse sous les 50 euros, moins 0,6%, 49,16 euros ce soir. CGG, là, on est dans le parapétrolier, moins 3,7%. Valourec, moins 0,1%, 2,67 €. Le secteur automobile aussi repère un petit peu de hauteur. C'était remonté, ça redescend sur Renault, moins 2%, Peugeot, moins 0,2%, Valeo, moins 1,5% et Faurecia, moins 1,5%. Sur les autres places financières, ça monte fort sur le DAX à Francfort, plus 1,3%, Bruxelles, plus 0,8%, Milan, plus 0,7%, Madrid est pratiquement stable ce soir. On rappelle le CAC 40 en hausse de 0,19%, 6042 points.
Merci pour ce tour d'horizon complet. Didier Hamaud, boursier.com. À 22h20 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview écho avec vous Emmanuel Duteil. Et avec vous ce soir Emmanuel, François Asselin, président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Bonsoir à vous.
Bonsoir François Asselin.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Vous êtes le président de la CPME, vous représentez donc les petites et moyennes entreprises. Une conférence de financement va se tenir demain autour d'Edouard Philippe. Les partenaires sociaux seront là. Alors ce n'est que le début, demain vous allez notamment parler du calendrier. Vous en attendez quoi de cette conférence de financement ?
Si vous voulez, il est quand même très compliqué, d'un côté, d'ouvrir de nouveaux droits autour de cette réforme des retraites, la pénibilité, le minimum contributif, c'est le minimum retraite. Et puis, d'un autre côté, ne pas se poser la question de combien ça va coûter. Parce que toute réforme des retraites ne peut être crédible que si elle est équilibrée.
Mais c'est-à-dire que de façon très concrète, quand vous discutez avec Edouard Philippe, vous allez, au titre de la CPME, régulièrement à Matignon, personne ne vous a donné aujourd'hui un chiffrage de combien va coûter ou va permettre d'économiser le nouveau système universel ?
Non, pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, entre la réunion du 19 décembre dernier, à Matignon, et aujourd'hui, eh bien, il était décidé, ce 19 janvier, d'ouvrir de nouveaux champs de négociation, le minimum contributif, les seniors, la pénibilité, tout cela suivant où on va positionner le curseur, eh bien, est générateur de dépenses supplémentaires. Donc, bien évidemment, on devrait, avant d'ouvrir ce genre de choses, se dire, attention, regardons déjà sur le système de base comment vont se passer l'équilibre de ce régime, et puis en fonction des marges de manœuvre, regardons si on peut se les offrir ou pas, et comment les finance-t-on. Or, vous avez assisté pendant les vacances de Noël, toujours à des blocages au niveau de la SNCF ou RATP, et puis là, vous sentez que par appartement, le gouvernement est en train de lâcher. Bah, écoutez, ça coûte de l'argent, ça.
Ça coûte de l'argent, mais là, on parle finalement du système universel, de la future réforme. C'est vrai que les Français ont sûrement du mal à comprendre. Il y a deux réformes en même temps, cette fameuse bing-bang pour le système universel. Et avant toute chose, ce que demande le gouvernement, c'est que le système actuel soit équilibré pour venir dans le nouveau. C'est la fameuse réforme paramétrique avec l'âge pivot, dont aujourd'hui on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga de la réforme. La CFDT n'arrête pas de dire, s'il y a un âge pivot, nous on n'y sera pas. Vous, vous êtes d'accord pour qu'on abandonne l'équilibre financier du système actuel ?
Alors tout d'abord, Emmanuel Lutteil, vous avez raison. Imaginons par exemple que cette réforme n'aboutisse pas. Ben, je peux vous dire que dans moins de 2 ans, de toute façon, il faudrait se mettre autour de la table avec les partenaires sociaux, dont la CFDT, pour trouver des mesures d'équilibre du régime actuel. Donc la réalité, c'est que nous avons en face de nous, de toute façon, un différentiel démographique qui ne sera pas favorable demain aux retraités par rapport au nombre d'actifs.
Donc ça, l'État voulait régler ce différentiel avec ce fameux âge pivot à 64
Exactement.
Ans. Vous, vous n'y êtes pas opposé, bien loin de là,
non,
cet âge
nous,
pivot.
Ce que nous avons toujours dit, la position de la CPME depuis le départ, c'était de dire de toute façon, écoutez, autant annoncer la couleur dans la mesure où on pourra tourner la chose dans tous les sens, il faudra de toute façon collectivement travailler plus longtemps. Pourquoi je dis collectivement ? Parce qu'il y aura toujours des régimes spécifiques, je pense aux missions régaliennes de l'État, la gendarmerie, l'armée, etc., où là, effectivement, ça sera avec un calcul différent au niveau du départ de l'âge en retraite. Mais pour autant, on a ce problème démographique en face de nous, auquel il faut répondre, soit par une augmentation de la durée dans la vie au travail. Et là, la CFDT dit nous ne voulons pas entendre parler de l'âge pivot.
Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord sur l'idée de se dire il va sûrement falloir lâcher beaucoup, un peu, un tout petit peu sur cet âge pivot. Mais on fait comment pour équilibrer le régime ?
Eh bien, c'est toute la question. C'est-à-dire qu'après, qu'est-ce qui vous reste ? Il vous reste la baisse des pensions. Or, personne ne veut entendre parler de baisse des pensions, et nous non plus. Et puis, il peut y avoir l'augmentation des cotisations.
Et là, on entend quand même de plus en plus de voix dire « Vous, entreprise, vous êtes riche, vous n'avez qu'à payer. »
Oui, alors ça, vous savez,
vous êtes prêt à payer ?
C'est une manière très simpliste de présenter les choses, parce que si les entreprises étaient riches, peut-être que le pays serait aussi encore plus riche. Or,
mais vous, c'est la même ligne rouge. Pas d'âge pivot pour la CFDT, pas d'augmentation des cotisations pour les patrons.
Pour une bonne et simple raison, c'est que d'abord, les retraites sont payées autant par les actifs, donc les salariés, comme les entrepreneurs. Pour certains d'entre eux, d'ailleurs, il ne faut pas oublier les indépendants. Il y en a quand même 3 millions dans notre pays. Leurs cotisations vont, pour certains d'entre eux, doubler avec ce nouveau régime des retraites.
Mais ils vont être aussi beaucoup mieux indemnisés que jusque-là.
Alors, pas tous. Sur le minimum retraite, effectivement, c'est-à-dire que 1 000 euros de retraite, vous savez, ça fait rêver plus d'un agriculteur et plus d'un indépendant.
Pas question d'avoir une hausse des cotisations.
Non, parce que sinon, ce sont aussi les salariés chez qui on va aller ponctionner du pouvoir d'achat. Et comme c'est un système par répartition, ce sont les actifs qui financent les retraites des retraités. Eh bien, c'est finalement refiler la patate chaude à nos enfants, petits-enfants.
Est-ce que vos adhérents, aujourd'hui, soutiennent encore la réforme des retraites telle qu'elle est proposée, où certains vous disent il y en a ras-le-bol, le pays est bloqué, arrêtons tout ça et mettons-nous à travailler.
Alors, il y a un match dans le match. C'est-à-dire que, autant nos adhérents se disent que ce régime universel est plutôt intelligent dans la mesure où on va finalement demander à tout le monde de travailler de la même façon et de cotiser de la même façon. Et donc, lorsqu'ils voient des régimes spéciaux, spécifiques, qui ont des avantages quand même très importants par rapport aux autres régimes, eh bien, ils se disent là, il faut que ça cesse. Ils sont en plus excédés de voir qu'ils ne peuvent...
Donc, soutien à la réforme.
Oui, donc ils soutiennent plutôt le principe
aujourd'hui
de la réforme.
Encore.
Aujourd'hui encore, ils soutiennent le principe de la réforme. Et surtout, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment on pourrait accorder à certains ce que l'on refuse à d'autres. Il ne faudrait pas que le régime, cette nouvelle réforme, soit exceptionnelle pour certains et universelle pour tous les autres.
Est-ce que, de façon très concrète, vous avez de premières remontées sur des dépôts de bilan et sur l'impact plus global sur l'économie de vos entreprises de ce mouvement de grève ?
Alors, ce mouvement de grève a d'abord touché surtout les grands centres urbains, et puis Paris, région parisienne, ce sont les premières victimes. Et là, nous voyons en moyenne, hôtellerie-restauration, des baisses de chiffre d'affaires sur le mois de décembre de 40%. C'est-à-dire que certains, ça va jusqu'à 80%, d'autres, ça va jusqu'à 20%, et d'autres, c'est à peu près à l'équilibre. Ce qu'on constate aussi, c'est que les réservations sur janvier et les semaines à venir sont en forte baisse. Parce qu'effectivement, comme il y a une incertitude sur la façon et les moyens de déplacement, eh bien, la clientèle repousse, si toutefois elle n'abandonne pas complètement, son déplacement à la capitale, sur Paris.
Au-delà de l'hôtellerie.
Au-delà de l'hôtellerie, nous allons avoir des éléments très importants puisque vous savez que les cotisations arrivent soit par trimestre, soit en fin de mois. Et là, nous avons demandé, nous, par exemple, à toutes nos caisses URSSAF, on a à peu près la moitié des présidences CPME des URSSAF, de savoir quelles sont les demandes de report d'échéance.
Et vous avez de premières remontées ?
Alors, on n'a pas encore les premières remontées. Nous allons les avoir à partir du 15 janvier. Donc ça, c'est très important. Et là, tout de suite, on a commencé à travailler avec le gouvernement. Et j'ai rencontré Bruno Le Maire mardi pour faire en sorte, eh bien, de ceux qui en ont vraiment besoin, d'étaler les échéances, voire les annuler. Le ministre de l'économie s'y est engagé.
Eh bien, un grand merci François Asselin, le président de la CPME, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil et on retrouve d'ici là votre interview en intégralité sur notre site europe1.fr. Vous restez avec nous. Dans un instant, on jette un coup d'œil à la une de vos journaux de demain. À la une de vos quotidiens demain matin, retraite, la difficile quête du compromis en première page des Échos qui reviennent sur cette réunion prévue demain à Matignon. On en parlait avec les partenaires sociaux. L'âge pivot pourrait être retiré à court terme, disent les Échos, si la CFDT accepte un cocktail de mesures équilibrant le budget du futur système dans le projet de loi. On ne sait pas encore si Laurent Berger ira ou non à cette réunion demain, mais il pourrait donc obtenir gain de cause sur sa ligne rouge, c'est-à-dire dans les Échos. Pas la même tonalité, en revanche, en une de Libé. Le bras de fer sans fin, titre Libération, après cette quatrième journée de manifestation. Le journal note un tassement dans la mobilisation et surtout l'impasse toujours face à la fermeté gouvernementale. Un retour sur les cortèges de ce jeudi qui fait les grands titres de la plupart de vos journaux en région demain, alors que l'opinion revient au niveau national sur le folklore, si l'on peut dire, du comptage des manifestants entre chiffres syndicaux, policiers et maintenant des cabinets indépendants dont aucun ne donne ne serait-ce qu'une même tendance. Eh bien, même avec les nouvelles initiatives, on n'est pas vraiment aidé pour s'y retrouver. L'opinion qui s'intéresse aussi au municipal à Paris, le supplice de la Macronie. La maire sortante socialiste Anne Hidalgo doit officialiser dimanche sa candidature, alors que la concurrence à La République En Marche entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani plombe la campagne du parti de la majorité. Benjamin Griveaux qui a reçu aujourd'hui le soutien de Marlène Schiappa qui sera candidate sur sa liste. Australie, la catastrophe sans fin, ça c'est à la une du Figaro, qui actualise les comptes des incendies monstrueux. Désormais, une trentaine de morts, 100 000 km² partis en fumée. Les autorités sont dépassées. Des pompiers français sont arrivés en renfort aujourd'hui. Et puis, aux racines de l'antisémitisme, ça c'est en une de La Croix. 5 ans après l'attentat contre l'hypercachère de la Porte de Vincennes, La Croix est allée aux sources, nous dit-elle, de cet anti-judaïsme séculaire qui trouve en France de nouvelles expressions. C'est un dossier à retrouver donc dans La Croix demain matin. Mais pour l'heure, il est tout pile 22h30 et vous avez rendez-vous avec la Libre Antenne. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Théo.
Comment ça va ?
Eh bien écoutez, comme d'habitude,
comme
tout
d'habitude,
va bien.
Tout vous allez toujours bien et on est avec vous toujours bien aussi jusqu'à 1h du matin.
À tout à l'heure,
à
Théo.
Tout à l'heure.